4. La loi naturelle et la cité. A. La personne et le bien commun. 83. En abordant l'ordre politique de la société, nous entrons dans l'espace régi par le droit. En effet, le droit apparaît dès lors que des personnes entrent en relation. Le passage de la personne à la société éclaire la distinction essentielle entre loi naturelle et droit naturel. 84. La personne est au centre de l'ordre politique et social parce qu'elle est une fin et non un moyen. La personne est un être social par nature, non par choix ou en vertu d'une pure convention contractuelle. Pour se réaliser en tant que personne, elle a besoin du tissu des relations qu'elle noue avec d'autres personnes. Elle se trouve ainsi au centre d'une toile formée de cercles concentriques. La famille, le milieu de vie et de travail, la communauté de voisinage, la nation et enfin l'humanité. La personne puise dans chacun de ces cercles des éléments nécessaires à sa croissance, en même temps qu'elle contribue à leur perfectionnement. 85. Par le fait que les hommes ont vocation à vivre en société avec d'autres, ils ont en commun un ensemble de biens à poursuivre et de valeurs à défendre. C'est ce que l'on appelle le bien commun. Si la personne est une fin en elle-même, la société a pour fin de promouvoir, consolider et développer son bien commun. La poursuite du bien commun permet à la cité de mobiliser les énergies de tous ses membres. À un premier niveau, le bien commun peut se comprendre comme l'ensemble des conditions qui permettent à la personne d'être davantage personne humaine. Tout en se déclinant dans ses aspects extérieurs, économie, sécurité, justice sociale, éducation, accès à l'emploi, recherche spirituelle et autres, le bien commun est toujours un bien humain. À un second niveau, le bien commun est ce qui finalise l'ordre politique et la cité elle-même. Bien de tous et de chacun en particulier, il exprime la dimension communautaire du bien humain. Les sociétés peuvent se définir par le type de bien commun qu'elles entendent promouvoir. En effet, s'il est des exigences essentielles au bien commun de toute société, la vision du bien commun évolue avec les sociétés elles-mêmes, en fonction des conceptions de la personne, de la justice et du rôle de la puissance publique. B. La loi naturelle mesure de l'ordre politique. 86. La société organisée en vue du bien commun de ses membres répond à une exigence de la nature sociale de la personne. La loi naturelle apparaît alors comme l'horizon normatif dans lequel est appelé à se mouvoir l'ordre politique. Elle définit l'ensemble des valeurs qui apparaissent comme humanisantes pour une société. Dès que l'on se situe dans le champ social et politique, les valeurs ne peuvent plus être de nature privée, idéologique ou confessionnelle. Elles concernent tous les citoyens. Elles expriment non un vague consensus entre eux, mais se fondent sur les exigences de leur commune humanité. Pour que la société remplisse correctement sa mission au service de la personne, elle doit promouvoir l'accomplissement de ses inclinations naturelles. La personne est donc antérieure à la société, et la société n'est humanisante que si elle répond aux attentes inscrites dans la personne en tant qu'être social. 87. Cet ordre naturel de la société au service de la personne est connoté, selon la doctrine sociale de l'Église, de 4 valeurs qui découlent des inclinations naturelles de l'homme et qui dessinent les contours du bien commun que la société doit poursuivre, à savoir la liberté, la vérité, la justice et la solidarité. Ces 4 valeurs correspondent aux exigences d'un ordre éthique conforme à la loi naturelle. Si l'une d'elles vient à faire défaut, la cité tend vers l'anarchie ou le règne du plus fort. La liberté est la première condition d'un ordre politique humainement acceptable. Sans la liberté de suivre sa conscience, d'exprimer ses opinions et de poursuivre ses projets, il n'y a pas de cité humaine, même si la recherche des biens privés doit toujours s'articuler à la promotion du bien commun de la cité. Sans la recherche et le respect de la vérité, il n'y a pas de société, mais la dictature du plus fort. La vérité, qui n'est la propriété de personne, est seule capable de faire converger les hommes vers des objectifs communs. Si ce n'est pas la vérité qui s'impose d'elle-même, c'est le plus habile qui impose sa vérité. Sans justice, il n'y a pas de société, mais le règne de la violence. La justice est le bien le plus haut que puisse procurer la cité. Elle suppose que ce qui est juste soit toujours recherché et que le droit soit appliqué avec le souci du cas particulier, car l'équité est le comble de la justice. Enfin, il faut que la société soit régie d'une manière solidaire, de telle sorte qu'on fasse droit à l'aide mutuelle et à la responsabilité pour le sort des autres, et que les biens dont la société dispose puissent répondre aux besoins de tous. C. De la loi naturelle au droit naturel. 88. La loi naturelle, lex naturalis, s'énonce en droit naturel, jus naturale, dès lors que l'on considère les relations de justice entre les hommes. Relations entre les personnes physiques et morales, entre les personnes et la puissance publique, relations de tous avec la loi positive. Nous passons de la catégorie anthropologique de la loi naturelle à la catégorie juridique et politique de l'organisation de la cité. Le droit naturel est la mesure inhérente à l'ajustement entre les membres de la société. Il est la règle et la mesure immanente des rapports humains, interpersonnels et sociaux. 89. Le droit n'est pas arbitraire. L'exigence de justice qui découle de la loi naturelle est antérieure à la formulation et à l'édiction du droit. Ce n'est pas le droit qui décide de ce qui est juste. La politique non plus n'est pas arbitraire. Les normes de la justice ne résultent pas seulement d'un contrat passé entre les hommes, mais elles proviennent d'abord de la nature même des êtres humains. Le droit naturel est l'ancrage des lois humaines dans la loi naturelle. Il est l'horizon en fonction duquel le législateur humain doit se déterminer lorsqu'il édicte des normes dans sa mission de servir le bien commun. En ce sens, il honore la loi naturelle inhérente à l'humanité de l'homme. Au contraire, lorsque le droit naturel est nié, c'est la seule volonté du législateur qui fait loi. Le législateur n'est plus alors l'interprète de ce qui est juste et bon, mais s'arroge la prérogative d'être le critère ultime du juste. 90. Le droit naturel n'est jamais une mesure fixée une fois pour toutes. Il est le résultat d'une appréciation des situations changeantes dans lesquelles vivent les hommes. Il énonce le jugement de la raison pratique qui estime ce qui est juste. Le droit naturel, expression juridique de la loi naturelle dans l'ordre politique, apparaît ainsi comme la mesure des relations justes entre les membres de la communauté. D. Droit naturel et droit positif. 91. Le droit positif doit s'efforcer de mettre en œuvre les exigences du droit naturel. Il le fait soit par manière de conclusion, le droit naturel interdit l'homicide, le droit positif prohibe l'avortement, soit par manière de détermination. Le droit naturel prescrit de punir les coupables, le droit pénal positif détermine les peines à appliquer pour chaque catégorie de crimes. Tant qu'elle dérive vraiment du droit naturel et donc de la loi éternelle, les lois humaines positives obligent en conscience. Dans le cas contraire, elle n'oblige pas. Si la loi n'est pas juste, elle n'est pas même une loi. Les lois positives peuvent et même doivent varier pour rester fidèles à leur vocation propre. En effet, d'une part, il existe un progrès de la raison humaine qui, peu à peu, prend mieux conscience de ce qui est le plus adapté au bien de la communauté. Et d'autre part, les conditions historiques de la vie des sociétés se modifient, en bien ou en mal, et les lois doivent s'y adapter. Ainsi, le législateur doit-il déterminer ce qui est juste dans le concret des situations historiques. 92. Les droits naturels sont des mesures des rapports humains antérieurs à la volonté du législateur. Ils sont donnés dès que les hommes vivent en société. Le droit naturel est ce qui est naturellement juste avant toute formulation légale. Il s'exprime en particulier dans les droits subjectifs de la personne, comme le droit au respect de sa propre vie, à l'intégrité de sa personne, à la liberté religieuse, à la liberté de penser, le droit de fonder une famille et d'élever ses enfants selon ses convictions, le droit de s'associer avec d'autres, de participer à la vie de la collectivité. Ces droits auxquels la pensée contemporaine accorde une très grande importance ont leur source, non dans les désirs fluctuants des individus, mais dans la structure même des êtres humains et de leurs relations humanisantes. Les droits de la personne humaine émergent donc de l'ordre juste qui doit régner dans les relations entre les hommes. Reconnaître ces droits naturels de l'homme revient à reconnaître l'ordre objectif des relations humaines fondées sur la loi naturelle. E. L'ordre politique n'est pas l'ordre eschatologique. 93. Dans l'histoire des sociétés humaines, l'ordre politique a souvent été conçu comme le reflet d'un ordre transcendant et divin. Ainsi, les anciennes cosmologies fondaient et justifiaient des théologies politiques dans lesquelles le souverain assurait le lien entre le cosmos et l'univers humain. Il s'agissait de faire entrer l'univers des hommes dans l'harmonie préétablie du monde. Avec l'apparition du monothéisme biblique, l'univers est conçu comme obéissant aux lois que le Créateur lui a données. L'ordre de la cité est atteint lorsque les lois de Dieu, par ailleurs inscrites dans les cœurs, sont respectées. Longtemps, des formes de théocratie ont pu prévaloir dans des sociétés qui s'organisaient selon des principes et des valeurs tirés de leurs livres saints. Il n'y avait pas de distinction entre la sphère de la révélation religieuse et la sphère de l'organisation de la cité. Mais la Bible a désacralisé le pouvoir humain. Même si des siècles d'osmose théocratique, y compris en milieu chrétien, ont obscurci cette distinction essentielle entre ordre politique et ordre religieux. À cet égard, il convient de bien distinguer la situation de la première alliance, où la loi divine donnée par Dieu était aussi loi du peuple d'Israël et celle de la Nouvelle Alliance, qui est porteuse de la distinction et de l'autonomie relative des ordres religieux et politiques. 94. La révélation biblique invite l'humanité à considérer que l'ordre de la création est un ordre universel auquel participe toute l'humanité et que cet ordre est accessible à la raison. Lorsque nous parlons de loi naturelle, c'est de cet ordre voulu par Dieu et saisi par la raison humaine qu'il s'agit. La Bible pose la distinction entre cet ordre de la création et l'ordre de la grâce auquel donne accès la foi au Christ. Or, l'ordre de la cité n'est pas cet ordre définitif ou eschatologique. Le domaine du politique n'est pas celui de la cité céleste, don gratuit de Dieu. Il relève de l'ordre imparfait et transitoire dans lequel vivent les hommes, tout en marchant vers leur accomplissement dans l'au-delà de l'histoire. Le propre de la cité terrestre, selon saint Augustin, est d'être mélangé, les justes et les injustes, les croyants et les incroyants, s'y côtoient. Ils doivent temporairement vivre ensemble, selon les exigences de leur nature et les capacités de leur raison. 95. L'État ne peut donc s'ériger en porteur du sens ultime. Il ne peut imposer ni une idéologie globale, ni une religion, même séculière, ni une pensée unique. Le domaine du sens ultime est pris en charge dans la société civile par les organisations religieuses, les philosophies et les spiritualités. À charge pour elles de contribuer au bien commun, de renforcer le lien social et de promouvoir les valeurs universelles qui fondent l'ordre politique lui-même. L'ordre politique n'a pas vocation à transposer sur terre le royaume de Dieu à venir. Il peut l'anticiper par ses avancées dans le domaine de la justice, de la solidarité et de la paix. Il ne saurait vouloir l'instaurer par la contrainte. F. L'ordre politique est un ordre temporel et rationnel. 96. Si l'ordre politique n'est pas le domaine de la vérité ultime, il doit cependant rester ouvert à la recherche perpétuelle de Dieu, de la vérité et de la justice. La légitime et saine laïcité de l'État consiste dans la distinction de l'ordre surnaturel de la foi théologale et de l'ordre politique. Ce dernier ne peut jamais se confondre avec l'ordre de la grâce auquel les hommes sont appelés à adhérer librement. Il est plutôt lié à l'éthique humaine universelle, inscrite dans la nature humaine. La cité doit ainsi procurer aux personnes qui la composent ce qui est nécessaire à la pleine réalisation de leur vie humaine, ce qui inclut certaines valeurs spirituelles et religieuses, ainsi que la liberté pour les citoyens de se déterminer vis-à-vis de l'absolu et des biens suprêmes. Mais la cité, dont le bien commun est de nature temporelle, ne peut pas procurer les biens proprement surnaturels, qui sont d'un autre ordre. 97. Si Dieu et toute transcendance devaient être bannis de l'horizon politique, il ne resterait que le pouvoir de l'homme sur l'homme. De fait, l'ordre politique s'est parfois donné lui-même comme le dernier horizon du sens pour l'humanité. Les idéologies et les régimes totalitaires ont démontré qu'un tel ordre politique, sans un horizon de transcendance, n'est pas humainement acceptable. Cette transcendance est liée à ce que nous appelons la loi naturelle. 98. Les osmoses politico-religieuses du passé, comme les expériences totalitaires du XXe siècle, ont conduit, en vertu d'une saine réaction, à remettre aujourd'hui en valeur le rôle de la raison en politique, conférant ainsi une nouvelle pertinence au discours aristotélico-thomiste sur la loi naturelle. La politique, c'est-à-dire l'organisation de la cité et l'élaboration de ses projets collectifs, relève de l'ordre naturel et doit mettre en œuvre un débat rationnel ouvert sur la transcendance. 99. La loi naturelle, qui est la base de l'ordre social et politique, ne réclame pas une adhésion de foi, mais de raison. Certes, la raison elle-même est souvent obscurcie par les passions, les intérêts contradictoires, les préjugés. Mais la référence constante à la loi naturelle pousse à une continuelle purification de la raison. Ainsi seulement, l'ordre politique évite le piège de l'arbitraire, des intérêts particuliers, du mensonge organisé, de la manipulation des esprits. La référence à la loi naturelle retient l'État de céder à la tentation d'absorber la société civile et de soumettre les hommes à une idéologie. Elle lui évite aussi de se développer en État-providence qui prive les hommes et les communautés de toute initiative et les déresponsabilise. La loi naturelle contient l'idée de l'État de droit qui se structure selon le principe de subsidiarité, en respectant les personnes et les corps intermédiaires et en régulant leurs interactions. 100. Les grands mythes politiques n'ont pu être démasqués qu'avec l'introduction de la règle de la rationalité et la prise en compte de la transcendance du Dieu d'amour, qui interdit d'adorer l'ordre politique instauré sur la terre. Le Dieu de la Bible a voulu l'ordre de la création pour que tous les hommes, en se conformant à la loi qui lui est inhérente, puissent le chercher librement, et l'ayant trouvé, projette sur le monde la lumière de la grâce qui est son accomplissement.